Bonjour à tous, merci d'être venus. On va vous présenter l'album de Louise Jor, qui est ici. Bonjour Louise, qui s'appelle Canopée. Un album qui est paru en début d'année, qui traite évidemment de science-fiction et qui a été très remarqué, puisque l'album a été épuisé en quelques semaines et a été réimprimé depuis.
Oui.
Donc il est disponible. Donc Louise s'est intéressée à une histoire qu'elle a située dans la science-fiction. Elle va me dire pourquoi elle l'a située dans un univers de science-fiction, parce que ça traite un peu d'écologie, de différentes choses.
Alors, donc c'est notre univers à nous, c'est juste que je l'ai situé dans le futur, en 2137, pour pouvoir être totalement libre de ce qui allait se passer et qu'on ne vienne pas me faire des reproches historiques ensuite, donc un peu de liberté. Et donc je me suis offert plein de liberté au niveau de la technologie, de ce qui a pu se passer au niveau des mutations sur certaines espèces animales.
Voilà, on va voir l'explication. Ouais. Donc l'album commence tout de suite, là on rentre dans le sujet, comme vous voyez sur cette planche. On est dans une scène d'action très, très représentative, on peut voir dans le cinéma un peu partout, un personnage qui est poursuivi, qui traverse la jungle. Bon, on voit un peu, comment dire, qu'il y a des robots, donc on se situe dans une histoire de science-fiction. Ce personnage est poursuivi par des robots qui vont essayer de l'attraper parce qu'il a volé, des données numériques, je crois. C'est ça.
Au début, on ne sait pas trop ce qu'il a volé, en tout cas.
Voilà.
Mais voilà. Il y a une raison d'être poursuivi.
Donc ça, c'est les deux premières, la première scène de l'album. On s'arrête, ce personnage dévale une pente, il tombe, et là, paf. Si on arrive sur quoi ? Une image très bucolique, on est dans la forêt, il y a des magnifiques zaras très colorés.
Qui sont un peu bizarres. Celui de droite était un peu bizarre.
Ouais, il y a des. Bon, donc on a une image très simple, très. On a l'impression qu'on va rentrer dans un. Comment dire. Dans un monde très tranquille. Et puis à l'image suivante, on entend des bruits, il se passe pas mal de choses, il y a des animaux. Parce que bon, il faut dire que la forêt, qu'elle soit amazonienne ou les forêts denses comme ça, c'est quand même extrêmement bruyant. Quoi.
Ah non, c'est jamais silencieux, peu importe l'heure de la journée.
Ouais. Après, on voit aussi des choses qui tombent et. Voilà, on s'arrête là et on va découvrir un peu plus tard qu'il y a une scène de chasse. Quoi.
Oui,
voilà.
Avec le personnage principal.
Et le personnage principal. Alors ce personnage principal, c'est cette jeune femme qu'on a vue tout à l'heure. On va essayer un peu de la... Attends, ouais, elle est juste avant là. Voilà, c'est Canopée.
Canopée.
Alors pourquoi l'as-tu appelée Canopée déjà ?
Donc à la base, ça vient du mot canopée qui est le nom pour le dernier étage dans la forêt, juste avant la cime des arbres. Donc c'est là où il y a le plus de vie, c'est là où il y a toutes les fleurs, les singes, les insectes. J'avais envie de lui donner un nom qui signifiait beaucoup de vie, mais caché, parce que c'est l'endroit qui est le plus inaccessible à l'homme, en fait, où c'est très difficile de grimper ou d'aller avec des caméras, parce que c'est tout simplement inaccessible, à moins d'être un singe. Et donc j'avais envie de donner ce prénom-là. Le problème, c'est que... J'ai dû changer l'orthographe du prénom parce qu'il y avait déjà une bande dessinée qui s'appelait Canopée, donc normalement ça s'écrit avec un C et un E en plus à la fin. Et j'ai donné un petit côté SF en mettant un K à la place du C, tout simplement. Je me suis dit que comme c'était un prénom, je pouvais me le permettre. Donc voilà, ça tombait bien, ça allait bien, ça rendait bien graphiquement. Donc voilà, je me suis fait plaisir aussi.
Tu t'es fait plaisir avec ça. Donc Canopée, c'est une jeune femme qui... Elle est rousse aussi. Elle est rousse, elle est habillée de vert, c'est un choix.
Totalement.
C'est vraiment
un choix de couleur.
C'est un choix d'harmonie de couleur.
Hein. Oui. Après, je me suis dit que comme elle était censée chasser, c'était un peu compliqué parce que le roux dans une forêt essentiellement verte, c'était un peu problématique pour se faire repérer. Du coup, j'ai dû lui mettre une sorte de masque pour cacher ses cheveux quand elle chasse parce que sinon, c'était juste pas crédible. Elle se ferait repérer tout le temps.
Oui, d'accord. Et avec son masque, en plus, quand elle chasse, tu lui as donné quand même une tenue d'Amazon. Parce que quand elle chasse, pour ceux qui découvriront là-bas, on verra qu'elle est torse nue.
Et pour pouvoir se mettre... Enfin, les militaires le font déjà, mais des peintures qui font qu'on ne distingue plus la forme du corps humain et donc qu'on puisse se fondre dans la nature.
Oui, mais c'est une tenue de camouflage.
Une tenue de camouflage.
Ouais,
d'où le problème des cheveux roux qui sont moins...
Et avec son, quand elle chasse avec son masque, on verra un peu plus tard que finalement, ça lui donne un petit côté super-héros.
Oui, c'est pas voulu, mais oui.
C'est pas voulu, mais ça fait un peu ça quand même. Donc, voilà. Donc, on est là dans l'album. On va voir Canopée qui va chasser. Et puis là, la chasse ne va pas forcément très bien se passer parce qu'elle va vouloir attraper, je ne sais pas, c'est un genre de facochère,
un pécari.
C'est
une
sorte
de petit, oui, de petit facochère qui est d'origine Amérique du Sud. Donc tout à fait dans le bon environnement. Mais oui, la chasse, c'est pas forcément quelque chose de facile et elle est obligée de chasser si elle veut manger de la viande. Donc, mais c'est pas pour ça que c'est facile et qu'elle réussit à tous les coups. Donc le côté super-héros.
Ne marche pas complètement dans cette histoire. Donc voilà, cette histoire, tu l'as pensée il y a combien de temps à peu près déjà?
Alors j'ai pensé en 2011 en fait. J'avais envie de faire une histoire qui parlait d'écologie en contexte, mais je ne savais pas trop quel angle adopter en fait. Et en mars 2011, il y a eu la catastrophe de Fukushima au Japon. Et ça m'a donné l'angle d'attaque en fait, qui était le nucléaire, les centrales, les problèmes qu'il y a autour des centrales nucléaires. Et je suis partie là-dessus. J'ai imaginé une centrale à Manaus au Brésil, qui n'existe pas, enfin j'espère. Et là, je suis partie de l'angle du nucléaire pour aborder tout ce qui était écologique, tout ce qui était préservation de la nature, problème. Enfin, parce que le nucléaire, en fait, on se rend compte que c'est quelque chose de vraiment très dangereux et d'invisible, totalement invisible, parce que dans l'album, on le remarque ça, c'est totalement invisible, c'est une menace qu'on ne peut pas voir, donc on ne peut pas éviter. Et j'avais envie de montrer en fait, que la nature va prendre ça comme un événement comme un autre, elle va continuer sa route sans s'arrêter dessus, les espèces qui mourront ou qui évolueront à cause des radiations vont prendre ça comme un élément de plus dans la vie et pas comme nous on le prend, c'est-à-dire que ça va être la fin de quelque chose. Eux, ils vont juste l'intégrer et continuer. Ce qui se passe dans les environs de Tchernobyl actuellement, en fait. On voit que la nature continue comme s'il ne s'était rien passé avec des petites mutations par-ci, par-là, pas toujours très sympathiques.
Oui, ce qu'a raconté Emmanuel Lepage dans un livre.
Oui, je ne l'ai pas eu en entier, mais j'ai vu un extrait. Et c'est tout à fait ça, c'est vraiment l'aspect totalement invisible et du coup très oppressant parce qu'on ne sait pas d'où vient la menace, mais on sait qu'elle est là.
Donc ils sont obligés de prendre d'énormes précautions pour survivre.
Et c'est ce que le personnage principal fait quand il arrive, qu'il est poursuivi par... le personnage principal, Jean, quand il est poursuivi par des robots, il a une tenue qui est censée le protéger de cette menace.
Ouais, donc on est dans un univers, là, tu le situes en 2137, finalement, il y a... L'Amazonie, il reste une espèce de sanctuaire, le seul sanctuaire où la vie, la biosphère, l'écosystème reste en vie, alors qu'à côté existent d'autres villes. Tu dis qu'il y a 10 milliards à peu près d'humains sur Terre, donc tout est arrivé. Et puis, donc, de cette ville qui est à côté, qu'on verra pratiquement pas dans la bande dessinée, mais on sait qu'elle existe, on sait que c'est là qu'il y a beaucoup de choses.
En fait, à part en 2137, dans mon histoire, à part l'Amazonie, donc la forêt amazonienne qui est déjà fortement réduite, il n'y a plus de forêt. Donc, c'est que de la ville à l'extérieur, dans un sens.
Oui, c'est vraiment un sanctuaire qui est resté, qui est protégé, là, qui reste là où vivent. Donc, va arriver dans l'histoire, justement, ce personnage qu'on a vu au tout début de l'album, là, ceux qui étaient poursuivis, là. Mm-hmm. On va le voir, il va se retrouver, finalement, il va se cacher dans la maison où est... où habite Canopé.
Oui.
Voilà. Donc, alors là, on voit que comment tu as situé son habitat dans la forêt, quoi.
Oui.
Tu peux m'expliquer un peu.
En hauteur, parce que, alors, juste en dessous de la canopée, parce que c'était quand même très très haut la canopée, mais en hauteur par rapport à d'éventuels prédateurs qu'on voit quelques pages plus loin dans l'album, qui sont assez redoutables, et au-dessus d'un creux que forme l'arbre en fait où est récoltée l'eau de pluie. Donc c'est aussi c'est un bon endroit, c'est un bon spot, comme on dit,
pour
mettre sa cabane. Ouais. Donc voilà, et donc ça c'est la cabane en fait de mon héroïne, de Canopé, mais qui était à la base celle de ses parents.
D'accord, donc voilà. Canopé, elle a eu des parents, ses parents qui ont disparu.
Oui, qui sont tous les deux morts.
Donc là on voit qu'un crayonné de son intérieur.
Voilà, ça c'est pour les recherches de l'intérieur, donc c'est pas très très grand, et il n'y a pas grand chose dedans, mais c'est suffisant pour vivre dans la jungle.
Vivre dans la jungle, ça suffit.
On vit plus à l'extérieur qu'à l'intérieur.
Ouais, donc, le fait que ça me fait penser à quelque chose, le fait que tu l'aies mis en hauteur dans un arbre, là, ça me fait penser à la maison de Tarzan, là, qu'on voit.
C'est dans similaire.
Il y a ce côté un peu, non?
Mais pour les habitations, en fait, je me suis surtout inspirée de. Il y a certaines tribus qui habitent en Amazonie, mais dans d'autres forêts tropicales aussi, qui font des magnifiques maisons très très haut dans les arbres. Enfin, j'ai eu l'occasion de voir un documentaire où c'est toute une famille qui crée sa maison en fait, et ils montent. Moi, à côté, ma cabane, c'est super bas. Hein. Ouais. Eux, ils montent 12-15 mètres pour faire des cabanes qui restent quelques mois, et après, ils déménagent et ils vont faire une autre cabane ailleurs. Et c'est vraiment c'est du niveau de ma cabane, donc c'est vraiment des belles cabanes, mais très très haut. Et il crée ça en peut-être une semaine grand maximum.
D'accord, super. Hein,
voilà, donc je me suis surtout inspirée de ça.
Ouais. Donc dans cette histoire, donc on a vu le personnage qui était poursuivi finalement à un moment. Bon, on se doute bien que Canopée va rentrer chez elle et puis elle va découvrir une espèce de, un personnage qui est caché chez elle,
oui.
qui a une combinaison...
Elle ne sait pas trop si c'est quelque chose d'humain, parce que ce qui est sur la couverture, en fait, la combinaison qui est sur la couverture...
Je reviens à la couverture.
Voilà, alors. C'est... Elle qui a toujours vécu toute seule dans la forêt avec ses parents, elle tombe sur
ce personnage
quelque chose, voilà.
Qui est dans son lit, quoi, c'est ça ?
Et en plus, qui est dans son lit, enfin, le seul endroit où on peut s'asseoir dans la cabane. Et elle va donc tomber sur cette chose humanoïde qui en plus fait du bruit, parce que ce qu'on comprend dans l'album, c'est que cette combinaison, donc c'est une sorte de combinaison sonore, et c'est une civilisation qui a atteint un niveau de technologie où il a transformé le son... en barrière contre certaines choses. On apprend qu'ils peuvent se laver grâce au son. On voit qu'ici, ils peuvent se protéger des radiations grâce au son. Et donc, j'ai essayé de développer un graphisme qui fasse comprendre que cette combinaison produisait un son qui protégeait la personne, en fait. Voilà, il faut aller voir les pages.
D'accord. Mais c'est intéressant parce que c'est bon. Parce que la civilisation qui... de ces 10 milliards d'humains qui vivent à l'extérieur dans un monde fermé très large mais qui est séparé de l'Amazonie, c'est comme une civilisation qui est hyper technologique.
Ils sont obligés d'avoir trouvé des trucs pour pouvoir
pour survivre, parce que ils se protègent avec des sons, leur nourriture est une nourriture complètement artificielle.
Oui, c'est des ça je me suis inspiré de Barjavel, La Nuit des Temps, je crois, je sais plus. C'est ils mangent des pilules en fait de compléments, c'est des choses qui goûtent pas grand-chose mais qui ont tous les compléments nutritifs nécessaire au corps humain. Mais ça, c'est pas nouveau, parce que j'ai l'impression que ça arrive ici maintenant, à notre époque, en fait. Des pilules, voilà. Déjà, même pour se soigner, on prend des pilules de zinc, de magnésium, qui ne goûtent rien non plus. Mais l'idée, c'est de pousser plus loin, de se nourrir que de ça, en fait. Voilà. Et quand on est 10 milliards habités que dans des villes, surtout, le fait qu'ils soient 10 milliards, c'est pas vraiment un problème en soi. Le fait, c'est qu'ils vivent complètement déconnectés de la nature. Et c'est ça que j'avais envie de transmettre dans l'album aussi, c'est qu'on peut pas vivre déconnecté de la nature, et la nature c'est pas seulement des arbres et des petits oiseaux, c'est notre milieu de vie, c'est notre environnement à nous, animal, être humain, quoi. Donc on peut pas s'en déconnecter, on en a besoin pour vivre, tout simplement. Donc, voilà.
Et cette nature, elle est quand même assez celle que tu nous écris, elle est assez riche, elle est luxuriante.
J'ai choisi le coin, ainsi.
Elle est très colorée, ouais.
Ouais, j'avais envie de me faire plaisir et de montrer. Pour moi, la meilleure façon de défendre quelque chose qu'on aime, c'est de montrer la beauté de la chose, en fait. Et voilà, la forêt amazonienne n'est pas que belle, parce que pour l'homme, elle est quand même toujours hostile. Mais j'avais surtout envie de montrer tout ce qui était beau dedans, ouais. Et tout ce qu'on ne voit pas. Et ce qui est... Je trouve ça bien, en fait, que ce soit un terrain où l'homme n'aille pas trop, parce que ça préserve une sorte de réservoir qui va nous, qui même si on n'y a pas accès directement, c'est une sorte de réservoir de trésor, de coffre-fort où il faut pas toucher, parce que c'est là où il y aura toutes les réserves, peut-être pour demain, où il faudra comprendre comment les utiliser sans les détruire. Donc c'est une question de survie, en fait, parce que toute notre pharmacie vient en partie des forêts et des forêts tropicales. Et donc il faut se rendre compte qu'il ne faut pas épuiser ces forêts, parce qu'à un moment on ne pourra plus se soigner, vu qu'on n'aura plus d'endroits où puiser, parce qu'on aura épuisé les ressources de tout, en fait.
Ouais, donc, si on n'a pas ces ressources, on sera obligé de faire des endroits confinés où les gens ne pourront pas sortir pour ne pas prendre de risques, quoi.
Oui, et même en ne sortant pas, ça crée d'autres problèmes. Donc voilà, on est un animal qui a émergé dans un environnement précis, et à force de détruire cet environnement, on va se détruire nous-mêmes, en fait.
Voilà. Donc c'est un thème. Là, j'ai mis la planche là. Finalement, on voit des bruits là, on voit des choses. Les perroquets, tu les aimes bien.
Oui, j'aime bien. Ils sont beaux là.
Ils sont super, ils sont colorés. Et puis on voit Canopée qui, enfin, après, c'est presque la rencontre avec Jean.
Oui, c'est un petit peu plus tard. Oui.
Ouais, c'est un petit peu plus tard, Jean.
Quand elle a compris qu'il y avait quelque chose sous cette espèce de combinaison.
Ouais, donc on le voit qu'il est en train d'essayer de faire des.
Il a amené un petit bout de sa civilisation avec lui.
Ouais, parce qu'il est en train d'essayer de se connecter, lui. Hein.
Voilà, lui, il essaie de reprendre contact avec la civilisation extérieure, la forêt.
Ah oui. Donc c'est quelqu'un qui vit connecté. C'est encore une parabole sur ce qu'on se fait un petit peu.
Oui.
Tu t'es amusé avec ça.
Hein. Je me suis amusé, c'est sûr.
Ouais, donc la rencontre entre les deux avait un peu.
Musclé,
un peu explosif, ouais. Et ce qui est intéressant, moi, je me suis posé la question, parce que tu avais choisi pour Canopée un prénom qui était très SF, qui avait quelque chose qui... Bon, on a bien compris le rapport avec la Canopée, tout ce qui était au-dessus, mais il y avait quelque chose qui était très en phase avec l'univers dans lequel elle est, quoi. Mm-hmm. Et lui, il s'appelle tout bêtement Jean. Jean, pourquoi il s'appelle Jean finalement? Pourquoi tu ne lui as pas donné un prénom de,
bah, d'abord,
de,
je,
ouais, plus science-fiction, plus original?
Ben, parce que bon, ça lui allait bien, mais c'est aussi parce que avant, enfin, en créant le projet, j'ai essayé de créer l'historique des personnages où ils ont grandi et tout pour les rendre plus solides. Et pour moi, Jean a grandi dans une famille catholique avec une mère fort croyante, et donc le prénom vient de là. Lui n'apporte pas ces valeurs-là avec lui dans la forêt, mais c'était pour montrer d'où il venait en fait. Montrer que même dans ce monde de 2137, il y a toujours une présence de la religion, il y a toujours des très vieux prénoms, en l'occurrence, parce qu'en 2137, Jean, ce sera très très vieux. Mais il y aura des choses comme ça qui auront survécu au fil des années, en fait.
Ouais, puis tu lui as donné un prénom Jean, tu l'as donné en, comment dire, un nom européen, parce que souvent dans les bandes dessinées, Jean, c'est John.
Oui.
C'est John.
Donc, y a voilà, une... c'est vrai. Mais donc j'imaginais que c'était une famille d'immigrés français aux États-Unis, en fait, et donc ce prénom venait de là. Alors oui, je ne me suis pas. Comment dire. J'ai pas fait une barrière de langage entre les deux, même si on comprend au début que Canopée a du mal à parler tout simplement parce que ça fait des années qu'elle parle plus. Mm-hmm. Mais je me suis pas attardée sur la barrière de langage parce qu'en bande dessinée, c'est possible, mais j'ai l'impression que ça freine vraiment la lecture et j'avais pas envie que ça freine la lecture. J'avais envie qu'on soit dans une fluidité.
Ouais, ouais, voilà. Non, ça c'est vrai que ça donne beaucoup de fluidité.
Mais je me suis posé la question. Voilà,
tu t'es posé quand même la question du langage, quoi.
Ouais.
Donc leur rencontre avait été un peu compliquée. Donc là, tu utilise un peu les ressorts souvent utilisés dans la comédie américaine ou dans les comédies. Voilà, deux personnages que tout oppose, que s'ils se rencontrent, ben, ils ne doivent pas se rencontrer, ça doit mal se passer. Mm-hmm. Et finalement, bon, la rencontre va être au début musclée, ils vont s'opposer, ils vont même se fâcher. Mais ça va évoluer parce que bon, une idylle va se développer un peu entre
oui.
Quoi. Bon, on le devine assez vite. Hein,
oui, oui, c'est pas un secret. Ouais,
on ne dévoile rien, dans les, on dévoile rien de, vraiment du suspense. Hein. Mm. On s'en doute que ça va se passer comme ça. Quoi.
Bah, surtout que oui, ils sont vraiment juste à deux face à cet univers végétal autour. Et oui, moi j'avais envie de faire une histoire d'amour, j'avais envie de mélanger les gens en fait, que ce soit anticipation, histoire d'amour, écologie, j'avais vraiment envie de mélanger tout ça et de pas me mettre de barrière au niveau de la catégorie de l'histoire en fait.
Ouais, non, mais ça te permet aussi quand même dans cette histoire d'aborder des thèmes quand même assez profonds. Bon, on parle de la survie de l'espèce, de l'écologie, oui. Des relations entre les hommes et les femmes, mmh. des choses qui sont quand même relativement, moi je trouve très profondes, malgré par contre des fois en bande dessinée ce genre de sujet n'est pas tellement abordé ou pas. Très peu par l'intermédiaire de ce genre de récit de SF, quoi.
Mais c'est parce que j'ai l'impression, mais pas forcément que en bande dessinée, j'ai l'impression que dans les films aussi, en roman peut-être pas autant, mais qu'on a tendance à séparer vraiment les genres, qu'on doit vraiment caser la bande dessinée dans un genre précis pour pouvoir la vendre. Donc c'est vraiment au niveau marketing. Et je trouve ça dommage parce que parfois ça. Parfois c'est bien parce qu'on est dans un genre qu'on aime bien et qu'on va à fond là-dedans et que les lecteurs ils aiment bien ça aussi, c'est où ils se retrouvent. Mais parfois, ça bloque un peu les possibilités. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on se laisse de plus en plus la possibilité de s'ouvrir à des genres différents et que ça crée une richesse pour moi.
Ouais, donc, est-ce qui te permet de développer ça aussi dans cet album, j'ai plus le nombre de pages en tête. Ça doit
124.
Faire... 124 pages, ouais. Donc vraiment, dans 124 pages, par rapport à la bande dessinée classique, on fait 44 ou 46. Oui. Donc tu as du temps pour développer, quoi.
Oui, voilà. Ça m'a fait vraiment. C'était vraiment une bonne chose pour un premier album. Parce que ça m'a permis non seulement de développer bien mes personnages, mais aussi de graphiquement d'évoluer et de vraiment apprendre un maximum de choses que j'aurais pas appris avec autant d'efficacité sur un tome classique de 46 planches.
Oui. Voilà. Donc aussi, contrairement à souvent ce qui se passe dans la bande dessinée de science-fiction et de fantastique, l'héroïne, la Canopée, bon. C'est une jolie fille, mais c'est pas non plus une bombe.
Non.
C'est pas une bombe sexuelle comme on en retrouve souvent des filles qui sont comment dire. T'as vraiment choisi de faire un personnage qui est des. Bah, on pourrait la croiser dans la rue, quoi.
Est-ce oui. Que... Et Jean aussi, enfin, je pense.
Bah, oui, Jean aussi. L'autre, ouais, c'est des gens qu'on peut croiser dans la rue. Ils n'ont rien d'exceptionnel, quoi.
Non, j'avais c'est vraiment envie que ce soit des gens qui puissent exister et qu'on s'attarde pas sur des. C'est vrai que. Dans la, enfin, de moins en moins, mais quand même dans la bande dessinée, il y a beaucoup de clichés des femmes et des hommes au niveau physique. Et j'avais envie de casser un peu ça parce que à force, c'est vraiment plus représentatif des gens qu'on croise, quoi. Ça devient des sortes de fantasmes que je n'ai pas forcément envie d'entretenir.
Oui, je m'en doute. Voilà. Donc, alors, mais une autre question plutôt. Est-ce que Canopée a quelque chose de toi? Qu'est-ce qu'elle a de toi finalement?
Ah, sûrement. Enfin, tous les personnages ont quelque chose. Vu que j'ai fait toute l'histoire, le dessin, les couleurs, tous les personnages ont quelque chose de moi, même Jean, même les animaux et tout ça. Mais oui, c'est vrai que faire une héroïne quand on est soi-même une fille, c'est peut-être plus simple. Je sais pas trop ce que je fais pas. Je chasse pas aussi bien qu'elle.
D'accord, non, peut-être pas besoin, peut-être.
Non,
hein.
mais tous mes personnages ont quelque chose de moi, c'est juste que je dois développer une partie de moi dans chacun, en fait. Ou de ce que j'ai vu, ou ce que j'ai entendu auprès d'amis, ou qu'on m'a raconté. J'essaie de développer des choses que je connais un peu, quoi.
Voilà. Donc, tu as fait ton licence en fiction. Qu'est-ce qui t'a inspiré à la base pour ça, par rapport à tes lectures ou des choses comme ça? Quelque chose de fondamental pour pouvoir développer ce genre de système?
Moi, je lis énormément de bandes dessinées, je regarde beaucoup, beaucoup de films. Ouais. Les romans, j'en lis quelques-uns, mais il faut plus qu'on me les prête, j'ai du mal à en trouver, il y en a tellement. Enfin, c'est pas pareil pour tout. Hein. Qu'est-ce qui m'a donné envie Un réalisateur dont je suis vraiment une énorme admiratrice, c'est Hayao Miyazaki, qui a fait plein de films, Princesse Mononoké, Nausicaa, Voyage de Chihiro. Lui, c'est vraiment un de mes moteurs pour avancer, parce que je trouve qu'il est toujours dans la justesse au niveau des sentiments, au niveau des sujets, au niveau du divertissement aussi, qui pour moi reste quand même très très important. Et donc lui m'a donné envie de développer des sujets qui moi me touchaient, donc par exemple l'écologie, que lui aussi développe. Et ne pas mettre de barrières. Mais il y a aussi toutes les bandes dessinées que je lis, j'en lis énormément. En SF, par exemple, il y a le cycle des mondes d'Aldébaran, de Léo, que moi j'aime beaucoup, qui développe tout un bestiaire. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est bestiaire un peu fantastique de SF en général. Mais vraiment, je lis de tout, je ne sais pas trop où piocher. L'écologie, c'est dans mon quotidien, par exemple. Et le côté divertissement, c'est dans toutes mes lectures et tous les films, quoi.
D'accord. Donc, un autre personnage, un personnage essentiel aussi à ton histoire, c'est la forêt, quoi.
Oui, alors, c'est un personnage.
Donc, pour faire la forêt, tu as dû quand même. Est-ce que tu t'es. Quelle recherche as-tu fait? Où es-tu? Parce que, donc, la forêt, il y a les arbres, il y a tout ce qui est végétal, mais il y a tout ce qui est animal. Alors là, moi, je vais te demander, quelle difficulté ou quel plaisir as-tu eu à dessiner, à créer ce monde et à. Inventer cette forêt, enfin, la recréer.
Alors, le plaisir total, déjà, parce que moi, j'avais vraiment envie de faire dessiner de la nature en général. Pour commencer, j'ai pris des bouquins pour enfants. C'est toujours ça que quand j'attaque un sujet, je prends toujours les bouquins pour enfants, parce que c'est souvent ceux qui sont expliqués de la manière la plus simple. Et ensuite, je vais vers des bouquins un peu plus complexes sur la faune, la flore. Et ce que j'ai fait, c'est... Pendant 2-3 semaines, chaque jour, je recopiais au moins une image de chaque page, que ce soit végétale ou animale, des bouquins que je lisais, en fait. J'enchaînais les croquis pour essayer de comprendre la forme des plantes, l'anatomie de certains animaux, parce que c'est vraiment pas les animaux de chez nous, c'est pas les plantes de chez nous non plus. Et donc, j'ai vraiment fait une recherche de fond, de documentation sur la faune et la flore. Ensuite, je suis passée à une autre recherche qui était celle des effets de la radioactivité, donc les mutations végétales et animales, et humaines aussi. Enfin, c'était pas très sympa, ce côté-là. Mais il fallait, pour que je puisse me l'approprier et le rendre moins monstrueux, j'espère, que ce que ça donne, ce que ça pourrait donner en vrai, en fait. J'avais pas du tout envie que les mutations donc sur les animaux, sur les hommes, soient les rendre monstrueux. J'avais envie que ce soit juste, comme je disais tout à l'heure par rapport à la nature, quelque chose qui fait partie de leur quotidien, de leur physique, et avec lequel ils sont obligés de vivre s'ils y survivent, en fait. Et j'avais pas du tout envie de sombrer dans le monstrueux, quoi.
D'accord. Voilà. Donc là, on voit comment tu as une recherche que tu as faite, toi, à partir. Tu peux nous commander cette séquence, là ?
Alors, donc ça, c'était juste pour montrer un peu comment je travaille. Moi, donc, je travaille au crayon, et ensuite, je passe donc crayon sur papier, et puis je scanne, et je fais mes couleurs à l'ordinateur. Et donc là, c'était juste
on voit
l'évolution de la couleur à part, pour montrer aussi que la couleur a vraiment beaucoup d'importance, parce que coloriste, oui. C'est aussi un métier en soi, ouais. Et on le découvre quand on doit faire ses couleurs tout seul. Ouais. Mais c'est ce qui m'a demandé le plus d'efforts, et c'était vraiment le plus difficile pour moi, la couleur, parce que c'est quelque chose d'extrêmement abstrait, en fait. Et c'est pour ça que j'étais contente d'avoir 124 planches, c'est parce qu'avec 46, je m'en serais pas sortie, j'aurais pas aimé ce que je sortais. Là, il m'a fallu au moins 40 planches avant de me dire ça commence à ressembler à quelque chose qui me plaît. Et donc la couleur, c'était vraiment le plus dur, mais au final, je suis vraiment très contente de l'avoir fait, parce que j'ai appris énormément de choses, et c'est une partie importante, la couleur. Ça joue beaucoup dans un album bande dessinée en général, quoi.
Ah ben surtout voilà. dans ce thème-là. Mais quand on regarde ton dessin noir et blanc, là, je sais pas, moi je me pose la question, combien de temps tu mets à faire ça, parce que y a, c'est,
une
c'est...
case noir et blanc comme ça.
Ouais, c'est fourni de détails, c'est.
Ouais, je sais pas, parce que moi je fonctionne par planche.
Ah, oui, non, mais
disons, voilà, si on prend une planche, je sais pas. Ouais, là, c'est pour montrer aussi le crayonné.
Voilà, le crayonné.
Voilà, en fait, je fais un crayonné léger et je repasse au-dessus avec un crayon un peu plus gras pour, à la place du traditionnel ancrage en bande dessinée. Ouais. Voilà, et donc pour une planche, je mets plus ou moins 2 jours pour atteindre le final en noir et blanc.
Ouais.
Et ensuite 2 jours supplémentaires pour la couleur. Donc 4 jours par planche.
Ah, d'accord, voilà. C'est quand même très long. Hein. C'est un travail
c'est
qui
très
est
long.
Ouais, c'est un travail qui est long. Ouais.
Oui, c'est vraiment très très long. Et encore là, c'est sur des planches petit format, donc ouais. C'est pas un album classique. Donc oui, c'est long, mais voilà, c'est ça qu'il faut.
Ça t'a pris combien de temps de faire l'album, finalement?
Un an et 8 mois.
Un an et 8 mois, quand même.
124 planches. Et encore, je crois que j'avance vite.
Et t'avances vite.
Voilà, donc un peu moins de 2 ans. Ouais. Mais bon, voilà, il faut ce qu'il faut. C'est... Donc, après, les gens le lisent en je crois une demi-heure 45 minutes, quelque chose comme ça, mais voilà, j'espère qu'ils apprécient le moment.
Non, mais c'est les albums qu'on lit et qu'on relit, ouais. Donc là, ouais, là j'ai pris cette séquence là, que t'as mené, enfin ces recherches de
d'insectes, oui,
c'est d'insectes, mais ça c'est des insectes un peu mutants quand même, hein.
Alors ça dépend lesquels. Il y,
en a
qui existent réellement.
Oui, réellement,
oui. En fait, ce sont des membres acides, ce sont des petits insectes qui ont la taille d'un grain de riz. J'ai eu l'occasion d'en voir au microscope, c'est vraiment magnifique. Mais donc c'est la taille d'un grain de riz et c'est des insectes qui ont des sortes de casques. À la base, on ne savait pas trop à quoi servaient ces casques. Et en fait, comme ils sont creux, on pense que ça sert à diffuser le son de manière plus forte pour leurs congénères. Donc voilà.
Ah d'accord. Ouais.
Voilà.
Ah,
donc, je les trouve géniaux. Alors j'en ai dessiné plein.
Ah, non, mais ce n'est pas les trucs que tu as inventés, ça. Hein.
Alors, lesquels j'ai... les deux à gauche existent réellement. Celui... oui, les trois à gauche existent réellement, en tout cas.
Ouais.
Et celui en haut à droite aussi, je pense. Le fluo, non. Le fluo, c'était pour la dernière ligne droite. En fait, c'était des petits insectes que je publiais sur mon site au fur et à mesure que j'avançais dans l'album. Donc à chaque fois, c'était mon petit plaisir. À chaque fois que je finissais une vingtaine de planches, j'en mettais un nouveau pour me dire « Ah, j'ai passé un cap, c'est chouette ». Et donc le fluo, c'est pour les 3 derniers mois de bouclage d'album où je devais faire que de la couleur, donc que de l'ordinateur, et donc j'avais les yeux un peu explosés et j'avais besoin d'un bon coup de boost, alors j'ai fait un membre acide fluo, voilà.
D'accord. Donc, mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que finalement, si on n'est pas spécialiste, on ne reconnaît pas ceux qui sont réels de ceux qui ne le sont pas. Finalement.
Non, et c'est pareil, en fait, dans l'album de Canopée, la majorité des animaux qui y sont existent. C'est juste que j'ai fait des petites évolutions, mais c'est quand même vraiment proche de ce qui existe. Il y a j'ai un moment, je décris la parade nuptiale d'un oiseau.
Attends,
je dis pas.
On va en revenir après.
Voilà, mais il faut se dire que ça existe et que j'ai quasiment rien inventé. Donc
on va en parler alors. Non, voilà. Alors moi là, c'est une des séquences que je préfère dans l'album, que je trouve génial. Il y a Canopée et Jean qui sont à un moment.
En forêt, oui.
Ils sont à forêt, et puis voilà par nuptial d'un oiseau qui est en train de préparer. Il nettoie sa branche avec un caillou.
Oui,
et puis il discute, et puis on voit l'oiseau, tu décris la parade nuptiale. Puis il y a Jean qui dit mais qu'est-ce qu'il est con cet oiseau. Tu lui dis à peu près ça.
Oui,
Mais ce qui est beaucoup plus rigolo, c'est qu'après, on va voir la scène de séduction de Jean.
Voilà, c'est chacun son tour.
On va la voir, la scène de séduction, et le parallèle entre les deux est absolument extraordinaire, quoi.
Mais et moi ça me met pas de pouvoir, en fait, dans la réalité on peut puiser tellement de choses qui existent qui sont déjà fantastiques, parce que c'est que donc cet oiseau c'est un paradisier, et il y en a plein des paradisiers qui ont des parades nuptiales totalement différentes des uns des autres, et c'est merveilleux, enfin en fait on comprend après quand on voit certaines tribus de Papouasie ou qui utilisent les plumes de ces oiseaux pour leur propre parade nuptiale par rapport entre hommes, quoi. Enfin, entre hommes et femmes. Et on voit que l'impact de la nature sur l'homme, enfin, l'homme s'inspire toujours de la nature pour lui-même, enfin, pour sa séduction à lui et des choses comme ça. Bon, aujourd'hui, on en est c'est un peu, un peu réducteur, mais on en est aux parfums, aux voitures et aux grosses montres. Mais voilà, à la base, il y a certaines tribus qui utilisent juste les plumes de ces oiseaux, quoi. Et ça représente un potentiel de séduction énorme.
Ouais. Voilà. Ouais, il y a aussi deux animaux assez extraordinaires dans l'espace. À un moment, Canopée chasse un puma.
Il y a un puma, oui. Ouais, un puma qui a un problème musculaire, oui.
Oui, qui est vraiment très costaud. Et elle va être aidée par un autre animal, un genre de bison, non ?
C'est ça, un bison d'Amérique. Oui, qui est dans la forêt amazonienne et on ne sait pas pourquoi.
Mais il existe vraiment dans la forêt amazonienne, dans cet animal ?
Non, il n'y a pas de bison dans la forêt amazonienne. C'est moi qui ai pris une liberté. Je voulais intégrer un animal qui fasse bizarre en forêt amazonienne, donc ça a l'air de fonctionner, on se pose quand même la question. Mais qui, par la force des choses, par l'avancée des villes, en fait, aurait migré et serait venu dans le seul environnement qui ressemble plus à son environnement.
Mais on retrouve ça. D'accord, je comprends. Ouais. Donc, ce fait que le rétrécissement de la forêt, fait que les animaux se regroupent. On trouve ça aussi, dans les forêts indonésiennes où il y a beaucoup de gueules de copra, où ils déforestent énormément et l'espace qui reste pour les animaux indigènes, les animaux du coin, et se resserre énormément.
Mais même en ville, je suis de Bruxelles et je vois par exemple dans les parcs, il y a une arrivée massive de perruches vertes qui font des oiseaux assez exotiques quand même. Et ils chassent les pigeons, quoi. Et donc, il y a un problème. Enfin, c'est pas un problème, mais on voit que même dans les villes, les espaces où il y a encore de la nature, donc les espaces verts, sont pris d'assaut par certaines espèces animales qui ne devraient pas être là normalement, en fait. Et qui, à force d'import, d'élevage à distance, colonisent un nouvel espace. Ouais. Donc, c'est une réalité déjà aujourd'hui dans les villes même.
Dans ce que tu décris, finalement, on pourrait retrouver dans des espaces comme ça, très confinés, des sanctuaires qui deviennent des refuges pour des espèces qui n'auraient peut-être pas à y être.
Alors après, est-ce que ces espèces vont y survivre ? Parce que c'est une chose. En tout cas, elles s'y réfugient. Mais est-ce qu'elles vont y survivre ? C'est une autre question. Parce que c'est vrai que ce n'est pas adapté normalement à eux. Ouais. Mais bon.
Donc, tu abordes aussi dans cette histoire le thème le thème écologie est quand même très, très présent aussi. Et tu décris dedans, il y a un autre acteur, d'autres acteurs quand même qui viennent dedans. C'est une tribu qui vit dans cette forêt amazonienne, mais une tribu qu'on appelle les éco-martyrs. Tu peux nous expliquer un peu ce qu'elle est ?
Alors, donc, c'est la civilisation extérieure qui les appelle les éco-martyrs. C'est un groupe d'écologistes extrémistes qui, lors de la catastrophe de la centrale nucléaire que j'ai inventée, donc en 2018, on y est bientôt, a décidé, pour protester contre la civilisation, de rentrer en forêt et d'y vivre, quitte à y mourir à cause des radiations, en fait. Et donc, ce groupe est resté, a survécu à travers les générations et a créé une sorte de tribu qui n'est pas originaire de la forêt, qui, à la base, sont aussi des citadins, mais qui ont après 100 ans, donc après deux générations, ont créé une sorte de nouvelle tribu qui est très respectueuse de son environnement, mais qui a quand même des idées assez extrémistes vis-à-vis des gens de l'extérieur. Donc c'est un peu un danger pour Jean, par exemple, qui lui vient.
Oui, c'est un danger, même pour Canopé, qui lui met bien ses limites. Au moment où on voit une scène, il lui met ses limites. Donc ce sont des gens qui vivent d'une forme d'autarcie pour respecter leur principe de vie. Quoi.
C'est ça, voilà.
Donc c'est quelque chose qui...
C'était pour nuancer, pour montrer... J'avais pas envie que ce soit tout blanc ou tout noir, que les écologistes soient les gentils, tout ça. Non, j'avais envie de montrer les dérives de chaque point de vue, en fait, que ce soit la civilisation, que ce groupe qui vit dans la forêt, montrer qu'il n'y a pas une seule solution, mais qu'il y a certaines dérives possibles, quoi. Pas forcément positives.
D'accord, voilà. Donc, ce qu'on peut peut-être rattraper, parce que ce qui se passe actuellement dans certains pays, en particulier les manifestations, comme on en voit dans la région ici, par rapport à la construction d'un aéroport, construction d'un barrage, ou même dans d'autres pays du monde, où des gens essayent de préserver quelque chose, et c'est compliqué de le préserver. Quoi.
C'est très compliqué. Alors, les éco-martyrs, c'est l'extrême, parce que c'est ceux qui n'ont plus rien pu préserver et qui, pour préserver, sont rentrés eux-mêmes, quitte à en mourir, dans un espace soumis à la radioactivité. Mais oui, moi, je comprends qu'il y ait des gens qui commencent à devenir violents parce que... Enfin, violents, encore pour l'instant, ça va. Parce qu'ils veulent protéger quelque chose qui, une fois qu'il aura disparu, on ne pourra jamais récupérer. Donc, je comprends qu'il y ait cette violence-là. Et justement, il faut y faire attention parce que... Enfin, il faut aussi les écouter. Moi, j'ai mon avis. J'ai pas envie de donner... avec mon album, j'ai pas envie de donner une morale. J'ai pas envie de donner un truc vraiment à suivre. Mais j'ai envie que le lecteur se fasse sa propre opinion vis-à-vis de tout ça, en fait. Non, mais vis-à-vis de l'environnement qui est proche de lui aussi, et pas seulement celui de la forêt amazonienne, qui est un symbole, en fait.
Oui, qui est un symbole, oui. Donc, tu rejoins un peu ce que font beaucoup d'auteurs de science-fiction, finalement, que ce soit en bande dessinée, en roman ou même en film. Quand on fait une histoire de ce thème-là, on essaie de donner une projection de, dans l'avenir de ce qu'on peut constater déjà pratiquement actuellement. Quoi.
Oui, pour moi, la science-fiction, c'est que des messages d'alerte de ce qui pourrait se passer, tout sous couvert de divertissement, de réflexion et tout ça. Moi, j'ai envie de m'inscrire là-dedans aussi, oui, c'est sûr. Ouais. C'est, parce que j'ai envie de parler de ce que je vois au quotidien et de ce qui me fait peur, de ce que j'espère. Donc voilà, c'est plein de choses, oui, c'est pour réagir sur le quotidien, toujours.
Donc on y revient à ça, au quotidien, la SF. Et après, on va parler peut-être d'une chose, bon, puisque le thème des utopiales, c'est quand même intelligence. Qu'est-ce qu'on pourrait dégager qui soit une forme... Il y a plusieurs formes d'intelligence que tu décris dedans, l'intelligence des animaux qui, eux, se protègent ou qui chassent, l'intelligence, la forme d'intelligence que développe la tribu des éco-martyrs. Est-ce que...
Bah, c'est une rencontre de différentes intelligences. Bah, déjà, on sait que l'être humain possède différentes intelligences déjà en lui-même, que ce soit l'intelligence du corps, l'intelligence des langues, l'intelligence de la musique. Enfin, c'est toutes des choses très différentes. Et si c'est vrai qu'on voit l'intelligence avec Jean qui vient d'une civilisation ultra-technologique, on voit une certaine sorte d'intelligence qui n'a pas sa place dans un milieu différent. En fait, c'est ça aussi, c'est... Je ne sais plus où j'avais vu la définition d'intelligence qui était le fait de s'adapter facilement. Et lui, n'a pas tout de suite cette intelligence de s'adapter. Il a une intelligence très fermée sur ce qu'il connaît, sur ce qu'il a développé et où il s'est spécialisé, parce qu'il est très bon dans son domaine. Mais chaque intelligence fonctionne avec un certain environnement, en fait. C'est ça que j'avais envie de montrer. Et lui, il se retrouve bloqué, il doit dépasser ça pour pouvoir survivre dans ce nouvel environnement.
Ouais, en fait. Donc quand on arrive dans un milieu qu'on ne connaît pas, la vraie intelligence, c'est d'essayer de comprendre comment on peut s'y adapter. Quoi.
Voilà, bah, pour moi, c'est ça en tout cas.
Ouais, c'est ça. Ça. Hein.
Donc, pour Canopée, l'héroïne, l'intelligence aussi, c'est d'essayer d'ouvrir les portes de ce nouveau monde.
À d'autres.
À d'autres, voilà.
Ouais, c'est une ouverture sur le monde aussi.
Voilà. Ouais. Et elle aussi, de ne pas, enfin, je ne vais pas parler plus parce que je n'ai pas envie de révéler trop de choses de l'histoire, mais elle aussi, elle a une certaine intelligence à développer, d'accepter en fait ces nouveautés. Mmh. Elle doit les accepter pour pouvoir avancer aussi. Quoi. Elle pourrait ne pas le faire, mais elle doit le faire. Donc, voilà.
Donc, je vais en passer sur un autre plan. Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer pour réaliser cet album, les difficultés soit techniques, purement dessin, purement recherche ou purement scénaristique? Faire un album de 124 pages ou un 48 pages, c'est pas du tout la même chose, quoi.
Non, mais chacun ses défis. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus simple en fait, parce que 48 pages, il faut savoir se restreindre, être efficace au maximum. Avec 124 planches, on a vraiment le temps de développer. Et parfois, en plus, j'avais pas de nombre limité de pages. J'avais un budget limité, mais j'avais pas un nombre limité de pages. Donc, si j'avais pu, j'aurais même pu faire 10 ou 20 planches en plus. Mais bon, après, au niveau temps et budget, c'est pas possible toujours. Mais non, les difficultés que j'ai rencontrées, c'est le fait voilà, de travailler pendant presque 2 ans toute seule sur quelque chose en se disant « Ouais, j'espère que... » Enfin, à un moment, je vais voir le résultat fini. Quoi. C'est ça aussi. C'est plutôt le travail sur la longueur. Après, oui, non, vraiment la couleur, où c'était une grosse découverte pour moi. Et puis le travail sur ordinateur, c'est au niveau du corps, je veux dire. Enfin, on est tous sur ordi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est tous connectés, on est tous sur ordinateur, c'est bien, Jean transmet ça aussi. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup travailler sur papier, et c'est vrai que quand je dois passer à la couleur, il y a des passages où le corps lâche. Moi, j'ai eu des soucis de... Enfin, pas grave, hein, mais j'ai eu des soucis de santé. J'ai vu quand j'ai dû rentrer dans mon bouclage les 3 derniers mois uniquement sur ordinateur à faire de la couleur. C'est le corps envoie des signaux qui disent c'est quand même pas très naturel tout ça, il faut pas trop abuser et même au niveau de l'esprit aussi on commence à comater, à se dire quand on sort se balader, oulala ce fond n'est pas assez saturé, ça devrait être plus jaune parce qu'on devient un peu fou en fait quand on travaille seul, mais non sinon il n'y a pas eu de grandes difficultés, je me suis vraiment beaucoup plu à faire cet album, j'ai découvert plein de choses. Ce qui est génial quand on fait de la bande dessinée, c'est que surtout quand on fait du scénario aussi, on a tendance à être vraiment curieux de plein de choses. Et donc, on essaye de se spécialiser dans des sujets pour faire croire qu'on s'y connaît à fond, alors qu'on a juste besoin de certains éléments pour faire semblant, en fait. On est des acteurs... là, je ne connais pas du tout de la forêt amazonienne, mais j'ai essayé de faire croire pour qu'on y soit, quoi. Je suivais pour ça une équipe de tournage de Luc Jacquet qui faisait un film « Il était une forêt » sur les forêts tropicales. Et tous les jours, ils mettaient des petits films de leur tournage en forêt, et ça me permettait de voir où est-ce que j'en étais par rapport à la réalité, et si je m'éloignais pas trop, quoi. Parce que j'avais pas envie de faire un truc trop idéalisé de la forêt, parce que comme je suis une citadine à la base, j'avais pas envie de faire un fantasme de la forêt. Je crois que je le fais quand même un petit peu, parce que j'ai pas vécu, donc voilà, il y a toujours une part de fantasme, mais j'essayais d'être le plus proche possible de la réalité pour le transmettre aussi aux autres, aux gens.
Ouais, pour que ton propos soit très crédible. Il l'est parfaitement. Hein. Donc, cette histoire va continuer. Donc, Jean et Canopé vont avoir le deal. Ils vont rencontrer pas mal de difficultés. Il va falloir qu'ils s'adaptent. Donc, toi, ton propos final, c'était quand même de nous montrer que la forêt, qu'il faut que l'homme fasse attention à ce qu'il fait.
Oui.
Il fasse très, très, très attention par rapport à la forêt et puis à conserver et puis à protéger ces espaces. Et aussi les rencontres entre finalement quelqu'un qui vit de manière relativement naturelle et quelqu'un qui vit de manière très sophistiquée. La rencontre, cette rencontre est possible ?
Oui, c'est tout à fait possible. C'est juste qu'il faut comprendre qu'on n'est pas sur le même mode de culture et de fonctionnement. Mais ça, c'est pareil quand on va d'un pays à un autre aussi. Mais c'est vrai qu'en ce moment, par rapport à la forêt amazonienne, il y a des tribus qui font des manifestations pour pouvoir protéger certains espaces et qui vont dans les grandes villes. Enfin, il y a un chef très connu, un chef Raoni, qui a une espèce de... C'est les peuples qui ont des assiettes comme ça dans la lèvre. Ouais. Et on le voit en ville parce qu'il doit aller parler à des types en costard-cravate. Et là, on voit qu'il y a un décalage. Mais quand on écoute ce que disent ces gens, c'est extrêmement sensé. Et on se rend compte que nous, par certains points, on ne l'est pas du tout. Mais il y a toujours le problème des lobbies, de l'argent. Parce que c'est vrai que l'argent reste un problème. Le plus grand ennemi de la préservation de l'environnement, c'est malheureusement l'argent. Quoi.
Ouais, on voit bien que côté choisi, la forêt amazonienne, ce n'est pas non plus innocent. Parce que
non,
les problèmes que tu évoques, qui se passent au Brésil.
Et ils sont actuellement en cours. En plus, c'est vraiment
ils sont vraiment en plein dedans.
Quoi. Et c'est vrai que ces tribus, elles ont une logique qui est très proche de leur vie quotidienne avec la nature. Mais c'est extrêmement sensé parce que même nous qui vivons dans les villes, donc assez déconnectés, on ne vit pas dans la forêt, il faut qu'on se rende compte que même on a besoin de ces forêts qui sont à des millions de kilomètres de nous. Quoi. Enfin, des milliers plutôt.
Oui, ce sont des réserves naturelles.
Bah, c'est des réserves naturelles et surtout que on ne peut pas, même si on a envie de détacher, on ne pourra jamais s'en détacher totalement, sinon ce sera la fin de notre espèce animale à nous.
On
reste des animaux quand même, même si on a des micros.
Donc il va rester un petit moment. Bon, on va. Alors s'il y a des gens qui ont des questions dans la salle, on serait ravis de.
Ah, oui. Attends. Est-ce qu'il y a un micro quelque part ?
J'ai un micro.
Oui.
Merci. Pour moi, la question qui se pose, qui n'a pas été posée, c'est la suite. La suite, pas forcément de Canopé, mais qu'est-ce que toi, tu as en tête de faire ?
Vous l'avez lu, que vous demandez la suite ou...
Oui, je l'ai lu,
Ah, d'accord.
On n'a pas voulu poser la question pour ne pas révéler la fin. Quoi.
Non, d'abord.
Je comprends qu'on ne veuille pas en faire.
Oui.
Ça donne très envie qu'il y en ait une.
Mais, donc, actuellement, là, je suis sur un nouvel album, une série classique cette fois-ci, donc en 46 pages. Donc, c'est un autre exercice. On voit que c'est compliqué aussi, scénaristiquement. Qui sera toujours avec beaucoup de nature, mais cette fois chez nous. Et ce serait avec des petits hommes à taille minuscule, avec des insectes. Parce que je n'ai pas envie de dessiner autre chose que de la nature et des animaux et des insectes. Donc, je vais aller à fond là-dedans. Et une suite pour Canopé. J'ai encore des choses à dire parce qu'il n'y a qu'une première partie de réflexion avec cet album. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas prévu. Mais si jamais ça se met un jour, il y aura des choses à raconter et c'est déjà en cours dans ma tête. Donc voilà. Merci.
Il y a quelqu'un là-bas.
Bonjour, merci pour la conférence. Moi, je viens juste de lire l'album, j'ai bien aimé aussi. Je suis tombé du coup sur la préface de Philippe Buchet qui, si je ne me trompe pas, est le dessinateur de Sillage.
Tout à fait. Il y a quelques dessins juste derrière, je crois, de vaisseaux et de...
Oui, tout à fait. Et du coup, c'était pour savoir comment est venue cette préface, si c'est la maison d'édition qui a mis en relation, si c'est vous, si c'est lui qui a lu les premières planches.
En fait, moi, grande lectrice de bande dessinée, quand j'avais 14-15 ans, je dévorais Sillage, j'étais vraiment fan, donc j'aimais beaucoup ce que faisait Philippe Buchet. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer deux, trois fois, ou rapidement quand même. Et quand mon livre était sur le point de sortir, en fait, la maison d'édition a eu l'idée de le parrainer avec un dessin et une préface d'un auteur de la maison d'édition. Et c'est Philippe Buchet qui, lui, s'est proposé, parce que comme on se connaissait un petit peu, c'est lui qui s'est proposé pour le faire. Et donc, moi, j'ai eu la surprise à 2 mois de la sortie, et donc j'étais super contente. Et voilà, et quand j'ai lu la préface, c'est un peu. C'est chouette en plus, parce que comme j'étais vraiment très admirative de son travail. Dans l'ex-libris qu'il a fait, il y a une sorte de passation entre les deux personnages, parce que son héroïne commence aussi dans la jungle, même si ça dérape vite en vaisseau et en voyage dans l'espace. Mais donc ça m'a vraiment fait vraiment plaisir, ça m'a touché énormément que ce soit lui qui le fasse, en fait. Donc c'était juste un beau cadeau.
Ouais, on pourrait faire un parallèle finalement entre votre canopée et les débuts de sillage. Ouais. Oui, il y a quelque chose qui est quand même très similaire, quoi.
Ben, ça fait partie de mes influences. J'en ai beaucoup des influences, fait partie de mes influences. Oui, et je continue de lire les albums. Et c'est vrai que quand je relis les sillages maintenant, je remarque vraiment la maîtrise au niveau dessin, mais au niveau scénario aussi. Comment est-ce qu'ils arrivent à tenir une série SF aussi bien, quoi.
Ah, oui, sur le temps, oui, ce qui est quelque chose de très difficile.
C'est très difficile. Ouais.
Ouais, c'est une série qui tient vraiment bien. Autre chose?
Non.
Non, bon, qu'est-ce qu'on va donner comme conclusion, Louise ? Ouais, si, moi, je voudrais comme dire quelque chose. Je suis quand même surpris que quelqu'un d'aussi jeune que toi arrive à faire un album avec une telle maturité.
Ah
ouais, moi, j'ai trouvé cet album, quand je l'ai lu, j'ai trouvé que cet album, c'est pratiquement ton premier album. Hein.
C'est mon premier album, mais ça faisait 2-3 ans que j'inventais des histoires, que je montais des dossiers pour présenter à des maisons d'édition. Donc j'ai eu le temps un petit peu de me roder sur le dessin et tout ça, mais c'est vrai que pour le scénario, en fait, je me suis rendu compte, et c'est pour ça, à mon avis, que mon histoire a séduit un éditeur, c'est que j'avais quelque chose à défendre avant que je n'avais pas, qui était l'écologie, et donc mixer ça à ce que j'avais déjà, donc écrire une histoire divertissante avec une histoire d'amour, quelque chose à défendre, ça aide à écrire des histoires, en fait.
Ouais, c'est vrai,
voilà,
c'est...
ou un propos qui vient dans le quotidien, ça aide vraiment à écrire des histoires et à aller jusqu'au bout, en fait.
Ouais, donc cette maturité, moi j'avais lu en bonne feuille, je n'ai pas lu l'album, il m'avait envoyé ça, et j'ai été surpris vraiment de la maturité, de la qualité, du contenu finalement de cette histoire, qui sous une histoire de bande dessinée relativement simple divertissement finalement, oui. N'est pas que ça, parce que dedans il y a les problèmes que tu abordes, on en a discuté, ils sont quand même à mon avis fondamentaux par rapport à ce qui va se passer un peu, quoi. Donc on attend avec impatience ton nouveau projet. Alors quand même, la petite dernière question, j'ai que posé un peu comme ça. Alors la bande dessinée, c'est quelque chose dans lequel, un peu comme Obélix, t'es tombé dedans, non ?
Ah oui, moi totalement, oui.
Raconte-moi un peu.
Donc, mes parents ont tous les deux fait des études de bande dessinée. Finalement, il n'y en a aucun des deux qui a fait de la bande dessinée. Mon père a été libraire spécialisé en bande dessinée pendant 15 ans. Donc, moi, j'ai vraiment été dedans à fond. J'avais accès à toutes les bandes dessinées que je voulais et je pouvais tout lire. Donc, ça, c'était super. Aujourd'hui, ma mère continue de dessiner et mon père est éditeur dans la boîte où je suis éditée, mais ce n'est pas mon éditeur. Donc, voilà, heureusement, d'ailleurs, heureusement. Il y a une histoire très forte avec la bande dessinée. Moi, j'aime vraiment
ça. Parce que finalement, tu as choisi de faire de la bande dessinée. Je ne vais pas dire par contrainte, mais parce que tu étais dedans, mais tu aurais pu complètement passer à autre chose, dire non, je ne veux plus en entendre parler.
Ah oui, mais mon frère a fait ça, plus ou moins. Donc oui,
oui, d'accord, ouais, c'est vraiment par goût que tu l'as fait.
Moi, c'est par goût. En fait, je me suis rendu compte, je m'en rends compte encore tous les jours, j'ai vraiment besoin de lire des histoires, que ce soit en roman ou en bande dessinée ou même en film. J'ai besoin d'histoires, dans mon quotidien, j'en ai besoin. Ça me nourrit vraiment, c'est une sorte de seconde nourriture. Et donc, en créer soi-même, ça participe à cette nourriture, en fait. Mmh. Donc, c'est très important. C'est pas vital, parce que je ne vais pas en mourir si je n'ai pas d'histoire de bande dessinée, mais c'est presque vital dans mon quotidien, quoi.
D'accord. Voilà. Non, mais super. Ben, merci, Louise.
Ben, merci beaucoup. Merci à tous.